Nous voilà réunis pour la dernière leçon que M. Takeshi Matsumura, professeur à l'Université de Tokyo, donne autour de cet admirable dictionnaire qu'il a publié il y a peu de mois, donc sur le thème général « Regard sur la lexicographie du français médiéval à l'occasion d'un nouveau dictionnaire ». Et je rappelle que lors des trois premières séances, il n'y a pas eu de discussion à la fin du cours pour ne pas être amené à des répétitions ou des anticipations sur ce qui devait se dire ensuite. Donc, à la fin de la séance d'aujourd'hui, nous aurons enfin le droit de poser des questions et de dire notre admiration au maître. Alors, la dernière séance est intitulée « Pour sortir des sentiers battus », ce qui est, nous apprenons que c'est ce qu'il faut toujours faire en conclusion. On conclut et puis on élargit vers de nouveaux horizons. Mais en outre, nous sommes particulièrement impatients d'entendre Takeshi Matsumura, parce que sortir des sentiers battus, nous avons l'impression de ne faire que cela depuis quatre séances. Chaque fois, les dictionnaires les plus savants, les dictionnaires qui collectent les témoignages les plus rares et les plus inattendus, sont pris en défaut, dépassés, relégués par la science infinie de notre lexicographe. Et donc, nous allons l'accompagner, là, non pas hors des sentiers battus, non pas dans le fameux jardin des racines grecques, mais dans la forêt profonde de la lexicographie médiévale. Eh bien, mon cher, allez-y. Merci beaucoup.
Donc, la semaine dernière, je vous ai dit comment une relecture un peu attentive de textes pouvait nous fournir des attestations charnières. Qu'ils soient édités depuis longtemps ou qu'ils viennent d'être publiés, tous les textes peuvent faire l'objet d'un examen lexicographique. Il est rare qu'on n'y trouve rien d'intéressant. Cependant, il y a bien sûr des œuvres bien dépouillées par nos prédécesseurs. Dans ces textes-là, on peut toujours essayer de découvrir quelque chose qui leur a échappé. Comme j'en ai parlé dans la troisième séance, il arrive qu'on ait des surprises bien agréables en relisant des éditions du XIXe siècle que tout le monde a dû lire et exploiter avec soin. Si vous avez de la chance, vous pourrez donc toujours travailler fructueusement sur ces textes bien connus. Mais quand on les feuillette d'une façon distraite, en général, le résultat n'est pas très riche. Puisque la vie est courte, il vaut mieux dépouiller des œuvres moins connues. Heureusement, parmi les textes médiévaux, il y en a beaucoup qui attendent d'être examinés soigneusement. Il n'est pas du tout difficile d'en trouver, car nos prédécesseurs nous ont suggéré de nombreuses pistes à suivre. On pense par exemple à la chanson de la première croisade, composée au début du XIIIe siècle d'après Baudry de Bourgueil. Dès 1876, dans la Romagna, Paul Meyer en a publié quelques extraits de cette œuvre d'environ 15 000 vers en alexandrin, en soulignant son intérêt littéraire. Et le dictionnaire de Toblet-Lomach en a tiré plusieurs citations. Cela aurait pu inspirer à leur lecteur le désir de lire l'ensemble du texte. Pourtant, dans les générations qui ont suivi Paul Meyer, personne n'a pris l'initiative de le publier en entier. Est-ce que c'est sa longueur qui les a découragés? Si l'on met à part un court article de M. Aimé Petit paru dans la Romagna de 1987, aucun romaniste ne s'y est intéressé jusqu'à une date récente. Une petite amélioration de la situation est survenue l'année dernière, car, dirigée par Thomas Stettler, Mme Jennifer Gabel de Aguirre a publié les premiers 5000 vers de cette chanson de la première croisade avec une étude lexicographique développée. On y trouve de nombreuses attestations remarquables et l'éditrice en a souligné l'intérêt avec soin. On pourra même ajouter à son glossaire un mot rarement attesté. Il s'agit du substantif féminin « l'ensaison » qui se lit dans la variante du vers 1685 et qui signifie action de lancer quelque chose. Ni Godefroy, ni Toblerone, ni Wartburg n'ont relevé ce mot dans leur dictionnaire. Il en va de même dans l'anglo-normand dictionary et le dictionnaire du moyen français. Il me semble donc que c'est un apax. Comme le mot se lit dans un manuscrit anglo-normand d'environ 1400, il pourra intéresser non seulement le Französisches Etymologisches Wörterbuch de Wartburg, mais aussi les dictionnaires sur Internet qui sont l'anglo-normand dictionary et le dictionnaire du moyen français. Chacun lira ainsi avec profit cette édition récente de la chanson de la première croisade. Si les 10 000 vers qui restent sont édités, on y trouvera encore bien des mots et expressions dignes d'intérêt. Cet exemple nous rappelle que les études anciennes de Paul Meyer contiennent de nombreuses pistes fructueuses et qu'en partant de ces travaux, on pourra faire des découvertes. Paul Meyer n'est d'ailleurs pas le seul à avoir exploré des domaines variés pour exhumer des textes peu fréquentés. Si on relit attentivement le dictionnaire de Godefroy, on s'apercevra tout de suite qu'il a dépouillé des œuvres qu'on ne connaît pas encore très bien. Dans ma première séance, j'ai évoqué comme un exemple de texte bien dépouillé par le lexicographe la somme des offices de Jean Boulette. C'est un témoin précoce de la littérature liturgique en français, et pour cette raison, il contient de nombreux mots qui concernent ce domaine. Et même pour d'autres domaines, il nous offre des attestations précieuses. En me reportant au manuscrit de la Bibliothèque nationale de France qui le transmet, j'ai pu ainsi tirer de ce texte encore inédit plus de 150 citations dans mon dictionnaire. Ce cas confirme que la lecture des dictionnaires de Godefroy est toujours féconde et qu'à partir de cet instrument, on peut encore enrichir notre connaissance du français médiéval. Même si l'on ne remonte pas aux études de Paul Meyer ou au dictionnaire de Godefroy, il y a de nombreuses éditions récentes de textes qui sont dignes d'être étudiées avec soin. Je ne peux pas les citer toutes, mais elles sont là pour qu'on les dépouille efficacement. Rien que pour la médecine, par exemple, Tony Rant, Xavier Tittel et David Trotter ont chacun édité des textes peu connus et ils nous ont montré combien une exploration de ces textes est utile. Pour ne citer qu'un exemple, on a longtemps considéré que la première attestation de l'adjectif incurable, qui signifie qu'il ne peut être guéri, était dans la chirurgie d'Henri de Mondeville, datée de 1314. Littré a signalé cette occurrence précoce dans son dictionnaire. Et depuis, Godefroy, Toblerone, Wartburg et le Trésor de la langue française ont tous repris cette information. Mais aujourd'hui, on sait que ce mot incurable est employé déjà dans le deuxième quart du XIIIe siècle. Cette nouvelle première attestation est citée à la fois par le dictionnaire étymologique de l'ancien français et l'anglo-normand dictionary. Elle provient d'un texte médical appelé « Practica brevis » de Johannes Platearius, traduit en français dans le deuxième quart du XIIIe siècle. C'est Tony Hunt qui l'a édité pour la première fois en 1994. Il est vrai que le glossaire de l'édition n'a pas relevé l'adjectif, mais une lecture attentive du texte a permis au dictionnaire étymologique de l'ancien français et à l'anglo-normand dictionary d'y en trouver plusieurs occurrences. Il n'est donc pas du tout difficile de sortir des sentiers battus et de faire des découvertes. Vous me direz peut-être, oui, c'est bien, mais la chanson de la première croisade, le traité de liturgie de Jean Boulette, les textes médicaux appartiennent au genre mineur et ils ne nous intéressent pas énormément. Mais heureusement pour vous, même pour les genres littéraires qui vous sont familiers et qui sont considérés comme majeurs, on peut avoir des surprises bien agréables et découvrir des mots rares ou des attestations précoces si l'on a des yeux pour voir. Prenons comme exemple la chanson de Roland. Vous vous demandez sans doute si je ne suis pas en train de radoter, puisque c'est le monument même de la littérature française du Moyen-Âge et que tout le monde la connaît par cœur, ou presque. Mais il faut se rappeler que que quand on dit la chanson de Roland, on pense tout de suite à la version d'Oxford sans se poser de questions. Le prestige de cette version transmise par le manuscrit d'Yves Vivant III de la Bibliothèque Baudelaire est tellement grand qu'on oublie qu'il existe au Moyen-Âge d'autres versions françaises de la chanson de Roland. De plus, même si l'on s'intéresse à ces autres versions, on ne les examine en général que par rapport à la version d'Oxford. On dirait qu'aux yeux des chercheurs modernes, elles peuvent fournir des variantes, mais qu'elles n'ont pas le droit d'exister en tant qu'œuvre à part entière. C'est dommage, car le vocabulaire de ces versions jugées inférieures ou subalternes ne manque pas d'intérêt. Je vais vous donner quelques exemples en m'attachant à quelques leçons de cette chanson de Roland, moins connue qu'on ne le croit. Je vous rappelle qu'en dehors de la version d'Oxford et mis à part deux fragments, il y a six versions françaises. Si l'on range ces six versions d'après la date de leur manuscrit, donnée dans la bibliographie du dictionnaire étymologique de l'ancien français, en premier lieu, on a la version P, conservée à Paris, dans un manuscrit d'environ 275. Ensuite, on a quatre versions de la fin du XIIIe siècle. Ce sont la version C, conservée dans un manuscrit de Châteauroux, la version V4, conservée à Venise, la version V7, conservée aussi à Venise, et la version L, conservée dans un manuscrit de Lyon. Et enfin, on a la version CA, conservée dans un manuscrit de Cambridge, copié après 1431. Parmi ces versions, je vais m'intéresser d'abord à la version P, ou la version dite parisienne. Cette appellation provient du fait que cette chanson de Roland Rimet est transmise par un manuscrit conservé dans la Bibliothèque nationale de France, sous la cote Fonds français 860. Le manuscrit lui-même est considéré comme originaire de Lorraine. Ce texte a été édité au moins quatre fois, depuis 1869 jusqu'en 2005, et il n'est pas tout à fait inconnu des lexicographes. Littré l'a cité dans son article hâtivement, comme on l'a vu la semaine dernière. Et de leur côté, Toblet Lomatch l'ont utilisé, d'après l'édition de Francisque Michel, pour en tirer au moins deux apax, dont l'un est passé ensuite dans le FEV. Les apax que Toblet Lomatch ont cités sont, d'une part, la locution « devancier son âge », qu'on lit au vers 382 et qui signifie « mourir prématurément ». Elle a été reprise par Wartburg dans son article à Banté avec la date d'environ 200. Comme cette leçon ne se retrouve pas dans les autres versions de la chanson de Roland, on peut penser que c'est une innovation du copiste ou de son modèle de la version parisienne. Mais cela ne lui enlève pas le mérite d'exister. L'autre apax est le substantif féminin « songison » qui se lit au vers de 1985. Et qui signifie « songe, rêve ». Wartburg n'a pas pu l'introduire dans son dictionnaire parce que l'article « Somniare » du FEV a été publié en 1963, soit 10 ans avant le fascicule de Toblet Lomatch qui contient l'article « Songison ». Cette leçon est également isolée parmi les différentes versions de la chanson de Roland. Mais si Toblet Lomatch l'ont relevé dans leur dictionnaire, c'est sans doute parce qu'ils ne l'ont pas considéré comme une simple faute du copiste. L'autre version de la chanson de Roland contient d'autres apax qui semblent avoir échappé au lexicographe. Par exemple, au vers 3787, il est question de l'amiral, c'est-à-dire commandant chez les peuples d'Orient, qui manifeste un grand baudelaire. Le substantif baudelaire signifie la joie. C'est un dérivé de l'adjectif beau, qui signifie joyeux, etc., et qui est attesté depuis la version d'Oxford de la chanson de Roland. L'article Bard du FEV contient plusieurs substantifs qui appartiennent à cette famille, comme baudeur, bauderie, baudise, baudesse, baudement, Mais il ne connaît pas le dérivé Baudouet. C'est parce que ni Godefroy ni Toblerone-Match n'ont pas relevé notre attestation. S'ils ont tous négligé ce mot, est-ce parce que cette leçon est trop différente de la version d'Oxford, car on trouve le substantif savoir dans le vers correspondant de la version d'Oxford. Et les autres versions suivent la leçon qui contient ce mot savoir. Mais même si la leçon de la version P est isolée, cela ne veut pas dire que c'est une faute dont on ne doit pas tenir compte. Qu'elle soit heureuse ou malheureuse, l'innovation du copiste méritera d'être prise au sérieux. Un autre apax est le substantif déluvement. Qui signifie déluge. Il se trouve au vers 3568 de notre version. En mentionnant dans sa prière ce que Dieu avait fait pour Jonas ou Daniel, Charlemagne évoque l'arche de Noé. Il rappelle que Dieu a sauvé Noé et toute sa gens dans le déluvement. Ce mot peut être rattaché à l'étymon diluvium qui a donné à l'ancien français déluge ou déluvie. Mais ni Godefroy ni Toblerone-Match ne l'ont recueilli dans leur dictionnaire. Il en va de même dans le FEV. Dans la prière correspondante des autres versions de la chanson de Roland, l'arche de Noé n'est pas mentionnée, sauf dans la version tardive de Cambridge. Mais dans la version du XVe siècle non plus, le mot délivrement n'est pas employé. On peut regretter que l'innovation de la version parisienne n'ait intéressé aucun lexicographe. On peut évoquer également, comme apax, la locution adverbiale par doublance, qui signifie un double tissu de maille, et se lit au vers 3543 de notre version. Dans une description de l'armée des barons de France, on trouve le vers suivant. Aubert vêtu et brugne, c'est-à-dire cuirasse, par doublance. Cette ligne n'est pas une pure invention du remanieur. Avec quelques changements de détails, la même chose se disait dans deux autres versions. En effet, dans la laisse correspondante, la version d'Oxford utilise l'adjectif doublant au lieu de l'expression par doublance. Et cet adjectif se retrouve dans la version de Venise 4. Par contre, les versions de Châteauroux et de Venise 7 ont supprimé la mention de la Brugne en remplaçant la ligne par Aubert vêtu de l'œuvre de Mayence. Et la version de Cambridge a sauté la ligne entière. On voit donc que la leçon de la version de Paris est le résultat d'une petite modification de celle des versions d'Oxford et de Venise 4. Mais le mot de Blanc n'a intéressé aucun lexicographe. Ni Godefroy, ni Toblerone-Match, ni Wartburg, dans son article de plus, ne l'ont recueilli. On s'explique mal pourquoi ils l'ont tous négligé, car ils ont relevé soigneusement d'autres mots qui signifient « un double tissu de maille », comme les adjectifs « doublantant » ou « doublant ». Le mot « doublantant » est attesté depuis environ 1170 dans le roman de Troyes de Benoît de Sainte-Maure, et le mot doublant se trouve dans la troisième version de Beuve de Anton, qui date du premier tiers du XIIIe siècle. Un autre apax de la version parisienne de la chanson de Roland est le substantif féminin fossor. Au sens de fausseté, il se lit au vers de 1755. Je cite la phrase qui occupe les vers 2755 et 56. C'est Némon qui parle à Charlemagne. Près de votre hoste, je vous dis sans fossor, voir pouvez le chemin grand poudreur. Cette phrase n'a pas de passage correspondant dans les autres versions, sauf dans la version lyonnaise où l'on retrouve une leçon similaire. Ces deux vers contiennent deux mots intéressants. D'un côté, c'est le substantif fossor, qui me semble être un apax. Et de l'autre, c'est le substantif féminin poudreur, qu'on lit au deuxième vers cité et qui signifie nuage de poussière. Ici, je vais faire un petit détour par ce mot « poudreur ». Le substantif « poudreur » n'est attesté que dans deux textes médiévaux. À part notre occurrence, il est employé par Jean Bondel dans la version L de la chanson des Saxons. Et ces deux attestations ont été relevées à la fois par Godefroy et par Toblerone. Dans le volume 6 de son dictionnaire, Godefroy est utilisé pour citer ces deux occurrences, d'une part Roncisvals de Jean-Louis Bourdillon et de l'autre l'édition de la chanson des Saxons par Francisque Michel. Ce qui était malheureux, c'est que Bourdillon avait supprimé notre vers de 1755 qui contient l'occurrence du mot fosseur. Godefroy, qui relevait bien l'attestation précise du mot poudreur, ne pouvait donc pas savoir qu'au vers précédent, il y avait un mot qu'on ne connaît pas ailleurs. Si Bourdillon n'avait pas omis le vers, il aurait sans doute permis au lexicographe de relever le mot fosseur. Quant au dictionnaire de Toblerone, c'est Lomach qui a ajouté les deux occurrences du mot poudreur dans le volume 7. Pour l'occurrence de Jean Bondel, il a utilisé l'édition de Francisque Michel comme le faisait Godefroy. Par contre, pour la chanson de Roland, il a préféré l'édition du même Francisque Michel, qui est moins lacunaire que l'adaptation de Bourdillon. Ainsi, le vers qui contient le mot fosseur existe bien dans la citation un peu longue que Lomach a tirée de la version P de la chanson de Roland. Si donc Lomach avait fait un peu attention à ce qu'il citait dans l'article poudreur de son septième volume, il aurait pu peut-être remarquer que le substantif fosseur était ignoré ailleurs et qu'il méritait d'être enregistré dans son dictionnaire. Mais sans doute, même s'il s'en était aperçu, ça aurait été trop tard, parce que le volume 3, consacré aux lettres E et F, était sorti depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, le résultat est que l'attestation du mot fosseur dans la version parisienne de la chanson de Roland n'a pas été recueillie dans les dictionnaires. Il pourrait être ajouté à l'article falsus du FEV de Wartburg. Le dernier apax de la version parisienne de la chanson de Roland dont je parle est le substantif féminin resvigurans. Qui signifie « vigueur ». Il se trouve au vers 197. Un des douze pères appelés Guérin adresse une prière à Dieu. Voici ce qu'on lit au vers 194-197. « Puis prie Dieu où il a sa fiance, qui lit au trait par vraie repentance, disent les gens qui n'ont nulle créance, férir et puis par sa resfigurance. » Parmi les autres versions, ce sont celles de Châteauroux et de Venise 7 qui ont un passage correspondant. Néanmoins, dans le vers qui correspond au dernier vers cité, leur leçon est un peu différente. À la place du mot resvigurans, elle donne le mot vigurans, qui signifie aussi vigueur et qui est aussi un mot inconnu ailleurs. Or, ces deux apax, resvigurans et vigurans, ont eu un sort différent dans la lexicographie. De ces deux substantifs, le plus heureux est vigurans. C'est Godefroy qui l'a enregistré dans son dictionnaire, d'après la version de Châteauroux de la chanson de Roland éditée par Wendelin Ferster en 1883. Le dictionnaire de Toblerone n'a pas repris le mot, mais Wartburg l'a bien enregistré dans son article Vigor en le qualifiant d'un apax du XIIIe siècle. Par contre, le substantif resvigurans n'a attiré l'attention d'aucun de nos principaux prédécesseurs. Ni Godefroy, ni Toblerone, ni Wartburg ne l'ont relevé dans leur dictionnaire. Pourtant, la phrase citée de la version parisienne a été bien imprimée dès 1869 par Francisque Michel. Michel a même traduit en marge le vers en question par « frapper y puisse par sa vigueur ». Une fois de plus, on constate avec étonnement qu'une attestation si remarquable est restée inconnue pendant plus d'un siècle. Sans être aussi rare, il y a d'autres mots remarquables dans notre version de la chanson de Roland. Prenons comme exemple le substantif féminin cornet, en fait, le mot est connu des lexicographes. D'abord, dans son article Cornet du deuxième volume, Godefroy lui donne deux significations. D'une part, c'est le sens de son du corps, et de l'autre, portée du son du corps. Pour la première signification qui est son du corps, Godefroy cite deux exemples tirés de la chanson de geste du cycle des Lorrains appelée Anseïs de Metz, qu'on date du premier tiers du XIIIe siècle, et d'une des versions de Renaud de Montauban de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Pour la deuxième signification qui est portée du son du corps, la citation unique de Godefroy correspond à une variante du roman de Thèbes d'après un manuscrit de 1289. Ces deux significations sont ensuite passées dans le FEV. En effet, dans son article Cornu, Vartour qualifie le mot cornet d'ancien français avec date du XIIIe siècle et il lui donne deux sens dégagés par Godefroy. Cependant, dans leur article Cornet, Toblet et Lomatch n'ont repris de Godefroy aucune de ces deux significations ni aucune de ces trois attestations. Par contre, ils y proposent le sens de action de sonner du corps avec une seule occurrence tardive tirée du bâtard de Bouillon. Comme cette chanson de geste date du milieu du XIVe siècle, cet emploi peut être considéré comme appartenant au moyen français. Or, bien qu'aucun des lexicographes ne l'ait fait remarquer, le mot cornet a le sens de action de sonner du corps au vers 359 de la version parisienne de la chanson de Roland. Le mot apparaît dans une des répliques de Roland à Olivier, alors que son ami lui demande de sonner du corps pour faire venir Charlemagne. Le héros lui oppose un refus catégorique. Voici ce qu'il lui dit au vers 357-359. Ne place un dieu qui fit ciel et rosée, ne à Marie la puisse sonner, que pour païen y fasse déjà cornet. La phrase se trouve à quelques variantes près dans les versions de Châteauroux, de Venisette et de Cambridge. Ainsi, le substantif féminin cornet signifie action de sonner du corps, non seulement dans le bâtard de Bouillon du milieu du XIVe siècle, mais aussi dans quatre versions de la chanson de Roland, depuis environ 275 jusqu'après 1431, si l'on s'en tient aux dates des manuscrits. Il est dommage que tous les lexicographes principaux aient passé ce fait sous silence. Un autre mot rarement attesté est le substantif masculin « reluisement ». Au sens de éclat lumineux. Si l'on cherche le mot dans les dictionnaires, on constate qu'il apparaît très tard dans l'histoire du français. Dans son article Reluisement paru dans le volume 7, Godefroy cite un seul exemple tiré des œuvres de Nicolas Abraham de la Framboisière, médecin et conseiller du roi au début du XVIIe siècle et qui est mort en 1636. Le passage cité dans cet article d'après l'édition de 1631 se lit déjà dans l'édition de 1624. Cette attestation est ensuite passée dans l'article Luqueret du FEV. Wartburg a qualifié le mot reluisement de moyen français tout en lui donnant la date de 1631. On peut compléter cette indication par le trésor de la langue française, car ce dictionnaire enregistre le mot reluisement comme dérivé du verbe « reluire » et cite un exemple de 1889. Cela signifie que le substantif est attesté non seulement en moyen français, comme le dit Wartburg, mais aussi en français moderne. Pourtant, le trésor de la langue française ne dit rien sur son attestation la plus ancienne. Quant au dictionnaire de Toblet-Lomatch, au dictionnaire du moyen français et à l'anglo-normand dictionary, aucun d'entre eux n'a l'article « reluisement ». D'après ma petite enquête, il y a au moins deux attestations qui précèdent celle de la framboisière. La plus ancienne se trouve dans la version parisienne de la chanson de Roland, et la deuxième dans un texte du milieu du XVe siècle. Dans la chanson de Roland, C'est au vers 3928 qu'on lit le substantif « reluisement ». Dans une des descriptions du combat des chrétiens et des païens, on lit la phrase suivante. « Les brins d'acier fontaient le reluisement comme l'isolas quand sa grand clarté rend. » Comme on en trouve un peu partout dans ce genre de description, c'est une scène où les lames des épées des chevaliers brillent comme le soleil. Les autres versions ne contiennent pas la laisse correspondante, sauf le fragment dit de Michelin. Là, on a le substantif éclairement à la place de reluisement. À ma connaissance, cette attestation de la version P est la plus ancienne du substantif reluisement. En ce qui concerne la deuxième occurrence du substantif reluisement, elle se trouve dans une publication toute récente de 2004. Il s'agit de la vie et miracle de Saint Jos, composée par Jean Miello en 1449. Cette occurrence du XVe siècle mériterait d'être accueillie par le dictionnaire du moyen français dans une de ses versions à venir. Le substantif masculin. Valage, qui signifie valet, vallon, mérite également d'être mentionné. Il se trouve au vers 383 de la version parisienne de la chanson de Roland. En parlant à son ami, Olivier dit qu'ils sont entourés des chevaliers d'Espagne qui se préparent pour les attaquer. En décrivant le paysage, il dit à Roland au vers 382 et 3 « Je ai vu d'Espagne le barnage ». Couvert en son limon et l'ivalage. Cette leçon est isolée dans la tradition manuscrite de la chanson de Roland. Dans les autres versions, on a un autre mot à la place du mot valage. Dans la version d'Oxford et celle de Venise 7, c'est le mot montagne, tandis qu'on lit le mot herbage dans les versions de Châteauroux et de Venise 4. Ces mots n'ont rien d'extraordinaire, tandis que le mot valage est plutôt rare. Bien qu'elle soit isolée, cette leçon de la version P mérite d'être relevée. Car jusqu'ici, on ne connaissait le mot valage que dans des textes plus tardifs. On doit à Godefroy d'avoir tiré d'Eustache Deschamps une première attestation connue de ce mot. Elle date donc de la fin du XIVe ou du début du XVe siècle. Les informations de Godefroy sont ensuite passées dans l'article Wallis du FEV et dans le dictionnaire du moyen français. Ils n'y ont ajouté rien de nouveau. Quant au dictionnaire de Tobler-Lomatch et à l'Anglo-Normand Dictionary, ils n'ont pas l'article valage. L'attestation du mot dans la version parisienne de la chanson de Roland précède donc celle qu'on connaissait jusqu'ici. Une fois de plus, le mot qu'on pouvait lire depuis au moins l'édition de la version P publiée par Francisque Michel en 1869 a échappé au lexicographe pendant plus d'un siècle. Un autre mot ignoré de la lexicographe, de la lexicographie, est le substantif féminin « suffrage ». Qui signifie « manque ». Ce dérivé du verbe « s'offrandre » ne semble pas être enregistré dans les dictionnaires. Ni Godefroy, ni Tobler-Lomatch, ni Wartburg dans son article sur Fringre ne l'ont relevé dans leur dictionnaire. Il est absent aussi de l'Anglo-Normand Dictionary et du dictionnaire du moyen français. Cependant, on a au moins deux attestations du mot. D'une part, c'est celle de la chanson de Roland. On lit le mot suffrègne au vers 2654 de la version parisienne. C'est Roland qui parle en s'adressant à son épée Durandal. Je cite « Mieux vaut mourir qu'entre païens remaigne, et France en est douleur et se freigne. » Ce n'est pas une leçon tout à fait isolée, car alors que dans les laisses correspondantes, les autres versions n'ont pas le mot, on le retrouve dans la version lyonnaise, qui est conservée, je vous le rappelle, dans un manuscrit d'environ 1300, conservé à la bibliothèque municipale de Lyon. L'autre attestation du mot est celle qui se trouve dans la chanson de geste Jean de Lançon. Cette œuvre est datée de la première moitié du XIIIe siècle mais le manuscrit de base qui a servi à son dernier éditeur, Jean Duplessis, date d'environ 1300. Quelle est alors la première occurrence ? Cela dépend de la datation qu'on donne au texte. Si l'on s'en tient à la date de leur manuscrit, c'est la version parisienne de la chanson de Roland, transmise par le manuscrit d'environ 275, qui précède Jean de Lançon et la version lyonnaise de la chanson de Roland. Rien qu'en examinant la version parisienne de la chanson de Roland, on peut ainsi découvrir des attestations précieuses. Si l'on jette un coup d'œil sur d'autres versions de la même chanson de geste, on peut y trouver également des mots remarquables. Et les lexicographes n'en étaient pas tout à fait inconscients. J'ai parlé tout à l'heure du substantif vigorance qui se lit dans les versions de Châteauroux et de Venise 7. Cet apax a été certes ignoré par Toblet et Lomach, mais il a été relevé par Godefroy et ensuite par Wartburg comme un mot inconnu ailleurs. Le substantif féminin forgison qui signifie action de forger était aussi connu des lexicographes, mais leur traitement est un peu différent. Dans son dictionnaire, Godefroy a cité ce mot avec une citation tirée de Roncesvalles de Jean-Louis Bourdillon. Cette information a été ignorée par Wartburg, mais elle est passée dans le dictionnaire de Toblet-Lomach. Pourtant, apparemment, ils n'ont pas pu identifier la source, parce qu'ils reprennent la citation de Godefroy sans indiquer dans quelle œuvre médiévale elle se trouve. En fait, le passage contenant le mot forgison se trouve dans les versions de Châteauroux et de Venise 7 de la chanson de Roland, et il ne se retrouve pas dans les autres versions. Comme les versions C et V7 ont été publiées par Wendelin-Ferster dès 1883, si Toblet-Lomach avait dépouillé son édition, ils auraient pu retrouver la source de Godefroy. Mais apparemment, ils ne s'y sont pas trop intéressés. En tout cas, ces exemples nous rappellent que Godefroy savait que les versions de Châteauroux et de Venise 7 contenaient des mots rarement attestés. On peut regretter qu'il n'ait pas poussé trop loin sa lecture dans cette direction. Car si on relit ces versions, on s'aperçoit tout de suite qu'elles n'ont pas été dépouillées suffisamment par nos prédécesseurs. Comme preuve, on peut citer plusieurs mots qu'on ne connaît pas ailleurs. Je vais examiner d'abord des leçons qui sont communes aux versions de Châteauroux et de Venise 7, ensuite celle qui est particulière à la version C, et enfin celle qu'on ne trouve que dans la version V7. Un de ces mots qui me paraissent mériter d'attirer notre attention est le substantif féminin « desconfit ». Qui signifie « défaite ». Il se trouve à la fois dans la version de Châteauroux et celle de Venise 7. C'est Ganelon qui parle au roi sarrasin Marsile. Je cite le vers 880 de la version C. « De votre gens, être grand, la desconfie. » Si l'on met à part la version V7, dans les laisses correspondantes des autres versions, on n'a pas le vers qui ressemble à celui-ci, et donc le mot « desconfie » ne s'y retrouve pas. Si je ne me trompe pas, ni Godefroy ni Toblet-Lomach n'ont recueilli ce mot dans leur dictionnaire. L'article « Conficere » du FEV ne l'a pas enregistré non plus. Le dictionnaire de moyen français et l'anglo-normand dictionary ne connaissent pas non plus ce mot. Il serait donc inconnu ailleurs. Il pourra être ajouté à l'article conficere du FEV auprès du verbe desconfire et de ses dérivés comme desconfite, desconfison, desconfiture. Même si c'est un mot employé par le remanieur pour satisfaire aux exigences de la rime, il n'y aurait pas de raison qui nous empêche de l'enregistrer dans nos instruments de travail. Un autre mot intéressant est l'adverbe « escordablement » qui signifie « du fond du cœur ». Il se trouve au vers 5107 de la version de Châteauroux et au vers 5222 de la version de Venise VII. En parlant de la façon dont Charlemagne adresse une prière à Dieu, le narrateur se sert de ce mot « escordablement ». Pour ce passage, ces deux versions semblent avoir modifié un peu la leçon de la version d'Oxford. On y lit en effet l'adverbe « escordeusement », qui signifie lui aussi « du fond du cœur ». Et cette leçon a été reprise sous forme de « escordiment » dans la version de Venise IV. Quant aux autres versions, elles s'en écartent davantage. Le dictionnaire de Godefroy et celui de Toblerone ont tous les deux enregistré l'adverbe « escordeusement » de la version d'Oxford, bien que ce soit en apax. La leçon de la version V4 est considérée par Carlo Beretta comme variante de l'adverbe « escordement » qui est souvent attesté en ancien français. Seule la leçon « escordablement » des versions de Châteauroux et de Venise VII n'a pas eu la chance d'être accueillie dans les dictionnaires. Elle pourra être rangée dans l'article corps du FEV auprès de escordement, escordrement et escortement. Le substantif masculin, esclartissement. Qui signifie vacarme, se lit aussi dans le texte transmis par les manuscrits de Châteauroux et de Venise VII. Il est dans la description d'une scène où les chevaliers français vont attaquer l'armée païenne. On entend beaucoup de bruit. Voici le vers 5132 de la version C. Grand fut la nuée et l'esclartissement. Dans les laisses correspondantes des autres versions, on ne retrouve pas ce vers et par conséquent, le mot esclartissement n'y apparaît pas. À ma connaissance, ni Godefroy, ni Toblerone, ni Wartburg n'ont enregistré ce mot. Il est inconnu également de l'anglo-normand dictionary et du dictionnaire du moyen français. Cela veut-il dire que c'est un apax? Pas tout à fait. Parce qu'on en trouve une autre occurrence sous forme de esclatissement dans une des versions de Tristan en prose. Elle se lit dans l'édition publiée par M. Joël Blanchard en 1976. Le texte de base donne « grand et l'églatissement des brachets et la voix et les sonnets des corps ». Un manuscrit du XVe siècle, qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, donne à la place du « glatissement des brachets » une leçon intéressante, « l'esclatissement des brachets ». Attesté ainsi deux fois, le mot « esclatissement » ou « esclatissement » pourra être ajouté au volume 17 du FEV. Auprès du verbe « esclater », du substantif « esclat », etc. Et si le dictionnaire du moyen français s'intéressait à la variante tardive du Tristan en prose, lui aussi, il pourrait accueillir le mot dans une de ses versions à venir. Après avoir vu ainsi quelques mots rares qu'on trouve à la fois dans les versions de Châteauroux et de Venise VII, maintenant je vais vous parler d'un des mots intéressants qu'on ne trouve que dans la version de Châteauroux. Un de ces mots inconnus ailleurs est l'adjectif anguessal. Qui signifie qui angoisse. Le mot se lit au vers 1641 et de la version de Châteauroux. En décrivant Roland qui s'adresse au baron français, le texte dit donc leur compte du journal anguessal. Au vers correspondant de la version V7, on a dès le douloureux journal, et par conséquent, l'adjectif anguessal ne s'y retrouve pas. De son côté, la version parisienne donne d'un anguesseux journal. Les autres versions n'ont pas de passage correspondant. Ainsi, toutes les trois versions, à savoir C, V7 et P, utilisent le substantif journal qui signifie jour de bataille. Et pour le qualificatif, elles se servent chacune d'un adjectif différent. C'est soit douloureux, soit angoisseux, soit angoissal. Tandis que les deux premiers sont des leçons banales, la troisième, c'est-à-dire angoissal, n'a jamais été relevée dans la lexicographie. ni Godefroy, ni Tombler-Lomatch, ni l'article Angustiare de Wartburg ne l'ont enregistré. Comme l'anglo-normand dictionary et le dictionnaire de moyen français l'ignorent aussi, on peut penser pour l'instant que c'est un apax. Il pourrait être rangé dans le FEV comme un des dérivés du verbe angoisser à côté d'un autre apax angoissable qui ne se trouve que dans la version d'Oxford de la chanson de Roland. Parmi les leçons qui sont particulières à la version de Venise 7, on peut citer par exemple le substantif féminin concueilli qui signifie rassemblement. C'est Roland qui parle à ses chevaliers pour les encourager à continuer à combattre les païens. Il leur dit que quand Charlemagne viendra là avec son armée, il ne manquera pas de les bénir en voyant une grande masse de païens qu'ils y auront tués. Le mot concueilli est employé pour désigner cette grande masse de païens. La laisse correspondante de la version de Châteauroux est très différente et on n'y retrouve pas le mot concueilli. Quant aux autres versions, à la place de ce mot, celles d'Oxford, de Venise IV, de Paris et de Lyon donnent le mot discipline au sens de massacre, tandis que la version tardive de Cambridge le remplace par le mot tuerie qui a la même signification. Ainsi, la leçon de la version de Venise VII est isolée. Elle est si isolée qu'elle a échappé à Godefroy ainsi qu'à Tombler-Lomatch. C'est sans doute un apax. On pourrait la ranger dans l'article colligéré du FEV auprès du verbe concueillir. L'emploi substantivé du participe passé encombré qui signifie malheur, mérite également d'être relevé. Le verbe encombré lui-même est un mot qu'on rencontre souvent dans des textes médiévaux. Godefroy et Tombler-Lomatch lui consacrent chacun un article assez long. L'article Comboros du FEV traite également du verbe encombrer avec ses différentes dérivées comme encombre, encombrance, encombrement, encombrier, etc. Le participe passé encombré est employé comme substantif au vers 582 de la version de Venise 7. C'est Ganelon qui, en parlant de Roland, souhaite que le malheur lui soit envoyé par Dieu. Ce fait Roland, puis Dieu devint encombré. Au vers correspondant de la version de Châteauroux, on a une leçon plus banale, car on lit Maldae à la place de encombré. Dans les autres versions, on n'a pas de ligne qui corresponde à ce passage. Cet emploi du participe passé semble être inconnu ailleurs. En tout cas, il a échappé au lexicographe, car ni Godefroy, ni Tombler-Lomatch, ni Wartburg ne l'ont recueilli dans leur dictionnaire. Il est également absent de l'anglo-normand dictionary et du dictionnaire de moyen français. Peut-être si l'on cherchait bien, on en trouverait d'autres occurrences. Mais en attendant, on peut penser que cet emploi substantivé de l'encombré n'est pas connu ailleurs. Comme le passage en question a été édité par Wendelin Ferster dès 1883 et lu sans doute par de nombreux savants intéressés par la chanson de Roland, il aurait mérité d'attirer plutôt l'attention des lexicographes. Un autre mot qu'on trouve uniquement dans la version de Venise 7 est le verbe transitif esmatir. Qui signifie abattre. Il se trouve au vers 3148, dans une des répliques de Roland, de deux imurés, tant par suyesmati. La version de Châteauroux a remplacé le deuxième hémistiche par une autre expression. Les autres versions aussi ont cette ligne, mais aucune d'entre elles n'a de leçon comparable à celle de Venise 7. Le verbe esmatir n'a été relevé ni par Godefroy ni par Tombler-Lomatch. Il manque également l'article matus du FEV. C'est sans doute un apax parce qu'il est aussi absent de l'anglo-normand dictionary et du dictionnaire des moyens français. mais on pourra le considérer comme descendant du même étymon que les mots comme ma, maté, matir, amaté, amatir, et le ranger dans l'article matus du FUV. D'autant plus qu'on connaît le verbe esmaté au sens de abattre, détruire. Il est attesté au moins dans deux textes franco-italiens. Godefroy cite ce verbe avec un exemple tiré du roman d'Hector et Hercule d'environ 1300, tandis que Toblet et Lomach l'enregistrent avec trois occurrences de l'entrée d'Espagne, chanson geste de la première moitié du XIVe siècle. Comme le changement de conjugaison arrive à mater et matir, ainsi qu'à amater et amatir, il ne serait pas tout à fait étonnant d'avoir esmatir à côté d'esmater. En attendant d'autres attestations de ces deux verbes, esmater, esmatir, on peut signaler du reste que leurs occurrences connues proviennent de textes franco-italiens. Pour dire poussière, nuage de poussière, on a plusieurs mots en français médiéval. À part poudreur, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a poudre, poudrier, poudrière, poudrerie ou encore poudrine. Parmi ces mots qui viennent de l'étymon pulvis, le substantif féminin poudrine est rarement attesté. À ma connaissance, on ne le trouve que dans la version de Venise 7 de la chanson de Roland. Dans une description de la fuite des païens, on lit le vers suivant. Grain et la nuèze, la poudrine est levée. Le vers correspondant de la version de Châteauroux, à la place de poudrine, emploie un mot plus courant, la poudrière. C'est le type qui se retrouve dans la version de Venise 4. Quant aux versions d'Oxford et de Paris, elles donnent la poudre. Ainsi, on voit que selon la version, un des synonymes est préféré, mais que la leçon poudrine ne se trouve que dans la version de Venise 7. Or, ce mot poudrine n'est relevé ni par Godefroy ni par Toblet-Lomach. Il est aussi absent de l'Anglo-Normand Dictionary et du Dictionnaire des moyens français. Pour l'instant, on peut donc le considérer comme un apax qui est arrangé dans l'article pulvis du FUV auprès de l'adjectif poudrant. Ainsi, s'il est vrai que la version d'Oxford de la chanson de Roland est un vénérable monument de la littérature française du Moyen-Âge, cela ne doit pas nous faire oublier le fait que cette chanson de geste est transmise par d'autres versions et que ses remaniements attendent encore d'être dépouillés soigneusement. Vous aurez pu constater que les lexicographes ont bien des lectures à faire. Puisque le progrès de la science n'est possible qu'en se basant sur des efforts collectifs, si parmi vous il y avait quelques-uns qui veuillent se lancer dans l'étude du vocabulaire du français médiéval, en lisant ou relisant des textes plus ou moins connus, la lexicographie pourrait en tirer un très grand profit. Comme je vous l'ai dit au début de ma première conférence, le dictionnaire du français médiéval que j'ai publié au mois de novembre dernier n'est qu'une tentative provisoire. Je ne prétends pas que ce soit le seul instrument imaginable. Vous y remarquerez sans doute que mon utilisation des dictionnaires existants n'est pas assez critique, que mes indications sur le caractère régional sont insuffisantes, que j'ai omis de nombreuses attestations charnières et que mon dépouillement de texte est loin d'être satisfaisant. Mon ouvrage servira alors de contre-exemple. Et pourtant, comme dit quelqu'un, on apprend beaucoup plus par les mauvais exemples que par les bons exemples. Si donc, scandalisé par la mauvaise qualité de mon travail, vous voulez entreprendre un autre dictionnaire qui le remplace en vous fondant sur une conception ambitieuse, vous rendrez un immense service aux lecteurs et aux lexicographes du français médiéval ou du français tout court. Je vous remercie.
Mon cher, on me reproche souvent mon humilité ostentatoire, mais je dois dire que dans ce domaine, évidemment, je suis battu par un Japonais. La chute était vraiment extraordinaire quand on compare à la richesse, à la nouveauté de votre dictionnaire, justement s'agissant des datations et des mots régionaux. Et d'autre part, alors vous nous avez porté l'estocade initiale pour cette séance et finale pour votre cycle de cours en intitulant votre dernière leçon « Sortir des sentiers battus » pour parler de la chanson de Roland, mais justement des autres versions de la chanson de Roland que nous sommes cependant inexcusables de ne pas lire de plus près, d'abord parce que nous y sommes invités depuis longtemps par des maîtres, et tout ce que vous avez dit aurait fait plaisir à Ramon Menéndez Pidal, mais et aussi parce que maintenant, c'est facile, puisque nous avons la collection de gammes, si je puis dire, qui, au moins aux ignorants que nous sommes, qui ne se précipitent pas toujours sur les manuscrits, rend de grands services. Mais vous nous avez dit en commençant, évidemment, si on feuillette de façon distraite, vous ne feuilletez pas de façon distraite. Vous feuilletez de façon si peu distraite que lorsque vous allez voir ce qui a été édité de la chanson de la première croisade, le mot que vous relevez, c'est un de vos premiers exemples, se trouve dans une variante. Donc non seulement vous avez lu attentivement l'édition des 5000 premiers vers de la chanson de la première croisade, mais c'est dans une variante que vous avez trouvé le mot l'ensaison dans la somme des offices de Jean Belette. C'est en vous reportant au manuscrit que vous avez trouvé. Enfin bon, tout cela est proprement accablant. J'aurais une ou deux remarques, enfin sur l'ensemble des leçons, mais particulièrement sur celle-ci plus précise. Mais je donne d'abord la parole.